Évangile de Matthieu, chapitre 21. Si vous n'avez pas une Bible avec vous, vous voulez suivre, on va aller dans quelques passages. Ce matin, juste levez la main, s'il vous plaît. Les placeurs vont se faire un plaisir de vous apporter une Bible tournée dans le chapitre 21 de Matthieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'avoir une Bible? Juste levez la main. Je tiens à mentionner que toute l'après-midi, on a eu l'événement du lancement du DVD de Prof Dino. Merci à tous les bénévoles, toutes les gens qui se sont impliqués dans l'Église. Ça a été vraiment un beau succès. 350, 380 personnes étaient ici, c'est ça, Gérard? 390. Et en jasant avec les gens, Gérard a l'impression qu'il y avait entre 30 et 40, peut-être, personnes non chrétiennes qui étaient ici. Plusieurs sont venus poser des questions. Il y a eu une belle présentation de l'Évangile avec François Bergeron. Ceux qui ont vu la toile, c'était magnifique, hein? C'était superbe. C'était vraiment, vraiment extraordinaire. Alors, c'est une bénédiction. Ça a été une bénédiction aussi sur le plan financier. Ça a été un succès de ce côté-là. Et Gérard tenait à vous remercier, à remercier tous les gens de l'Église qui ont été bénévoles dans l'événement. Mes enfants étaient là. Ils ont beaucoup apprécié aussi. Ça a été vraiment un beau moment à la gloire de Dieu. Et je sais qu'il y a déjà des fruits spirituels qui sortent de ça. Parce que Gérard a eu des témoignages, moi aussi j'en ai eu. Alors Dieu va se servir de ça dans les temps à venir. On va tourner ensemble dans Matthieu 21 et mon épouse va nous faire la lecture des versets 1 à 11, Matthieu 21. On va écouter ensemble la parole de Dieu.
Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller.
Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici, ton roi vient à toi. » plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci? » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. »
On va se courber ensemble dans un mot de prière. Seigneur Jésus, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et lorsqu'on lit un passage comme celui-là, retournant près de 2000 ans en arrière, Seigneur, dans cette petite ville, ce petit pays au Moyen-Orient, avec cette foule, Seigneur, qui s'excite pour chanter tes louanges, qui croirait, Seigneur? Qui croirait qu'un jour tu reviendras monté sur un cheval de guerre, Seigneur, proclamer haut et fort ta royauté sur tout l'univers. Père, je veux te demander ce matin de venir saisir nos cœurs par ton Esprit Saint. Parle-nous de ton Fils, Père. Fais-nous voir la gloire de Christ, sa grâce, son humilité, sa paix, son amour pour nous, Seigneur, ses mains tendues vers nous. Ma prière, Père, c'est que tu saisisses nos cœurs par ton Esprit Saint afin que nous plions le genou aujourd'hui devant le roi, Seigneur. Pour qu'au jour de son retour, nous soyons dans la joie parmi les élus. Que déjà, Seigneur, aujourd'hui, tu viennes régner dans nos vies, sur nos cœurs. Et que des louanges viennent remplir, Seigneur, nos bouches. Que nos vies, Seigneur, soient une louange qui t'est agréable. Sois notre roi, Jésus. Montre-nous ce matin, Père, à travers ce temps dans les Écritures, là où tu ne règnes pas, Seigneur Jésus. Là où nous te refusons ta seigneurie sur nos vies. Montre-nous ces domaines que tu ne peux pas réquisitionner pour ta gloire dans nos vies. Montre-nous ces jardins secrets que nous voulons garder pour nous, Seigneur. Et que ce matin, nous partions d'ici chantant des louanges dans nos cœurs. Hosanna, au Fils de David, viens et règne, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Touche nos cœurs ce matin par ta parole. Elle est puissante. Sois avec ton serviteur. J'ai besoin de ton règne dans ma vie et dans mon cœur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Vous m'excuserez, il faut que je prêche sans veston ce matin. Ce n'est pas une illustration. On fait des tests. Ça a l'air qu'il y a quelque chose de particulier avec moi. Je suis la seule personne avec qui le micro coupe. Vous avez vu ça la semaine dernière, je parlais, ça faisait... Alors, François me demande de faire des tests. Ça se peut que la semaine prochaine, j'ai une chemise hawaïenne, t-shirt, short. On essaie d'identifier quelle partie de mon corps fait défaut. Ça se peut que les chirurgies deviennent plus drastiques aussi. On va trouver, en tout cas. Inquiétez-vous pas. Éventuellement, ça ne coupera plus. Qui est Jésus-Christ? Et je sais, la majorité d'entre vous, vous dites, j'ai déjà la réponse, on ne va pas recommencer ça ce matin. Attendez la fin du message pour savoir si vous avez vraiment la réponse. Qui est ce Jésus-Christ? C'est la question que les gens de cette ville se posaient. Bien des gens avaient entendu parler de lui, mais devant cette foule excitée, surexcitée cette journée-là, alors que la ville de Jérusalem et la nation d'Israël est en train de se préparer à célébrer la Pâque. C'est le moment fort dans l'année d'Israël, dans l'année juive où les gens montent à Jérusalem pour aller célébrer ensemble. Il y a déjà une atmosphère de festivité dans la ville qui s'installe. Mais là, à un certain moment donné, une des journées précédant cette fête, il y a quelque chose qui se passe, la foule est excitée, les gens commencent à crier des chants de louange et la ville est émue. La ville est sans dessus dessous se demandant, mais qui est ce Jésus? Qui est-il? Pour que les gens s'excitent comme ça. C'est ma question pour vous ce matin. Qui est Jésus de Nazareth pour toi, dans ta vie? Si Jésus-Christ a dit, s'il a déclaré, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », la question suivante, « Qui est Jésus-Christ pour toi ?» est la question la plus importante à laquelle tu peux répondre dans ta vie. Si Jésus-Christ a dit vrai, c'est la question la plus importante à laquelle tu pourras répondre dans toute ta vie. Lorsque j'ai répondu à cette question à l'âge de 18 ans, ma vie a été littéralement bouleversée. Ça fait 20 ans de ça et ma réponse à cette question-là continue à bouleverser ma vie tous les jours depuis 20 ans. C'est la même question qui bouleverse ma vie chaque jour depuis 20 ans. Qui est Jésus-Christ pour toi, Yannick? Qui est ce Jésus de Nazareth pour toi, Yannick? Cette question-là bouleverse ma vie tous les jours depuis 20 ans. Le printemps prochain, nous aurons la visite de Tony Anthony, ancien champion de kung-fu et criminel. La réponse à cette question a bouleversé sa vie. Au printemps 2006, nous avons eu la visite de Kim Phuc, victime de la guerre du Vietnam. Sa réponse à la question « Qui est Jésus de Nazareth ?» est venue transformer sa vie, est venue la libérer. Quelle est votre réponse à cette question que se posait la foule, voilà 2000 ans, près de 2000 ans maintenant? Mais qui est cet homme? Qui est ce Jésus? Vraiment, qui est-il pour faire tout ce qu'il fait pour que des gens s'excitent comme ça lors de sa venue en ce jour de préparation pour la Pâque? Ce matin, on retourne dans l'Évangile de Matthieu. Depuis une bonne année, on est en train d'exposer tranquillement, avancer chapitre après chapitre dans l'Évangile de Matthieu. Et à partir du chapitre 21, d'accord? Il y a 28 chapitres. À partir du chapitre 21... Il nous reste un quart du livre à voir. Nous allons être dans la dernière semaine. À partir du chapitre 21, nous entrons dans la dernière semaine avant l'arrestation, la torture, la crucifixion de Jésus-Christ. Et nous allons devenir des observateurs. Parce que Jésus va prendre le contrôle de chacun des événements. Il y a une sorte de mise en scène à partir d'ici. Une mise en scène comme seul Jésus-Christ est capable de la faire, avec cette autorité qui lui est unique et particulière. Si vous n'êtes pas entré en contact avec cet homme-là, je vous mets au défi cette semaine d'aller lire l'Évangile de Matthieu. Il faut lire l'Évangile, plonger les regards, lisez cette semaine les 28 chapitres, écoutez comment cet homme parle, comment cet homme agit. Vous allez découvrir un homme incomparable. Aucun homme avant lui n'a parlé avec une telle autorité. Aucun homme avant lui n'a parlé avec une telle perspicacité, sondant le cœur des hommes. Et lorsqu'on saisit cela, lorsqu'on est impressionné, lorsqu'on est imprégné par cette autorité de Jésus et qu'on entre dans la dernière semaine, on commence à devenir attentif. On est attentif à chaque détail, chaque intervention, chaque parole qu'il va prononcer. On y voit une mise en scène, littéralement, car il sait qui il est, il sait ce qu'il vient faire, il vient se dévoiler aux hommes. Soyez attentifs à partir du chapitre 21. Jésus prend le contrôle de chaque événement. Et même lorsqu'il semble perdre complètement le contrôle sur sa vie et sur sa mort, il est parfaitement au contrôle de la situation. Il vient accomplir les temps et les moments qui avaient été conçus et préparés avec son Père de toute éternité. Et nous voyons sa gloire éclater alors qu'il est si fragile et si petit aux yeux de Pilate et de ses ennemis, parce que nous connaissons la fin de l'histoire. Nous voyons exploser sa gloire et sa magnificence. On entre dans cette dernière semaine. Jésus va poser des gestes bien précis, intentionnels, qui vont le conduire jour après jour jusqu'à la croix. Il va poser ses gestes afin d'accomplir ce que son Père et lui ont conçu, ont établi de toute éternité. Les temps sont accomplis et le moment est venu pour Jésus de se dévoiler aux hommes. Avant, lorsque le diable, voire même des démons dans des manifestations surnaturelles, voudraient forcer des choses, le dévoiler avant son temps, Jésus intervient et leur dit « Non, ce n'est pas le temps. Les temps ne sont pas accomplis. » Les temps le sont accomplis maintenant. Et Jésus vient se dévoiler aux hommes. Il va diriger chaque moment qui vont le conduire jusqu'à la croix afin qu'un grand nombre puisse croire en lui, croire dans le salut qu'il est venu nous offrir. Quelques jours avant son arrestation, Jésus va faire une entrée remarquée à Jérusalem. Jérusalem, c'est la grande ville du roi David. C'est une ville sur laquelle plein de prophéties ont été prononcées. Des gens qui avaient reçu des révélations de Dieu, des prophètes avaient parlé de la part de Dieu, annonçant de grandes choses sur cette ville, qu'un jour un Messie viendrait, un descendant, un fils de David, un héritier de la lignée de David, pour perpétuer la royauté à travers David. Quelques jours avant son arrestation, Jésus vient et entre dans cette grande ville du roi David. Il va lui-même préparer la mise en scène. Je ne suis pas en train de dire par là que ce n'est pas vrai. Mais Jésus vient accomplir les temps. Et il veut que pendant des millénaires, les hommes puissent lire à nouveau cette histoire et voir que Dieu accomplissait les temps et les moments. Ses disciples ne saisiront pas toutes ces choses à ce moment-là. Mais Matthieu, par exemple, va écrire après, des années plus tard. Voyez ce qui est en train de s'accomplir ici. On avait les yeux voilés, on ne réalisait pas. Lorsqu'il a été crucifié, nous avons paniqué. Aujourd'hui, nous comprenons ce qui s'est passé. Pourtant, il nous avait avertis. Et Matthieu va écrire des années plus tard, regardez les prophéties qui est en train de s'accomplir ici. Voyez-vous, Jésus sait parfaitement qui il est. À ce moment-ci de l'histoire, j'oserais dire qu'il y a les anges dans le ciel qui savent qui il est. Ils n'ont pas vu sa gloire encore comme ils vont la voir. Le Père, certainement, c'est l'Esprit, c'est lui, c'est les hommes ne savent rien. Mais Jésus sait qui il est, il connaît son rôle dans l'histoire de l'humanité. Je dirais qu'il sait parfaitement quel est son rôle passé et son rôle à venir. Comme on va le voir ce matin, Jésus se présente ici comme un roi, mais un type bien particulier de roi. Quand Jésus va affirmer, il va dévoiler sa royauté, mais un type de roi bien précis, parce qu'il connaît son rôle et il est venu accomplir son rôle à Jérusalem à ce moment-là. Maintenant, ça s'est passé il y a 2000 ans. C'était la première venue de Jésus-Christ. C'était sa première venue sur terre. C'était la première venue de Jésus-Christ. Ce jour-là, il est entré à Jérusalem assis sur un âne. Vous savez, c'est quoi un âne? C'est pas tellement une bête de guerre. Êtes-vous d'accord avec moi? Je sais pas, je ne chargerai pas assis sur un âne. Tu sais, Ennio Morricone, vous vous rappelez, un bon western? Je sais pas, moi, je n'irai pas à la guerre comme ça. Jésus, ce jour-là, est entré à Jérusalem assis sur un âne comme un signe de paix et de douceur. Salomon était entré à Jérusalem assis sur un âne. Entrant dans son règne, un règne de paix, contrairement à son Père David, qui est un homme de guerre. Jésus entre assis sur un âne comme un signe de paix et de douceur. C'est la première venue du roi. C'est la première venue du roi Jésus-Christ. Et tout à l'heure, je vous ai posé la question, qui est Jésus pour vous à vos yeux? Que représente-t-il dans votre vie? Et si je vous pose cette question, je dois vous parler de sa seconde venue aussi. Je n'ai pas le choix. Si je m'en tiens à la première, vous risquez de mal répondre à ma question. Je dois vous parler de son retour, parce que la première fois, Jésus est arrivé pacifique à Jérusalem, assis sur un âne. C'était la première étape dans l'histoire du salut. C'était une première étape dans l'histoire du salut. Mais Jésus savait parfaitement ce jour-là, alors qu'il entrait de manière pacifique à Jérusalem, qu'il reviendrait un jour, non plus monté sur un âne, mais sur un cheval, dans une apparence complètement différente. Tournez avec moi dans Matthieu 24, s'il vous plaît. Juste quelques chapitres plus loin. On va écouter ce que Jésus nous dit lorsqu'il nous parle de sa seconde venue. Et vous devez savoir, si vous n'êtes pas familier avec les Saintes Écritures, que Jésus se présentait souvent lui-même comme le Fils de l'homme, faisant allusion à un passage dans Daniel. Jésus utilisait différents titres pour se présenter. Dans le passage que je vais vous lire maintenant, au verset 29, Jésus se présente comme le Fils de l'homme. Matthieu 24, 29. Jésus parle ici de sa seconde venue. On est dans Matthieu 24, nous sommes avant son arrestation, avant qu'il soit torturé, avant qu'il soit crucifié. Voyez-vous, quand Jésus s'en va là, il sait déjà qu'il revient un jour. Et il a déjà cela à l'esprit. Matthieu 24, 29. Aussitôt après ces jours de détresse, Jésus prophétise, annonce qu'un jour viendra où il reviendra nous voir. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. L'atmosphère a changé, non? Les nations de la terre se lamenteront. Hosanna au fils de David! Oh, qu'est-ce qui se passe? Je vous lis un passage dans Apocalypse 19, si vous êtes familier, tournez vite. Mais autrement, je vous lis le passage, beaucoup plus troublant et impressionnant. On vient d'entendre Jésus nous parler de sa propre bouche, de ce qui s'en vient. Je vous lis un autre passage dans Apocalypse 19, versets 10 et suivants. Il est encore question de Jésus-Christ et ceux qui sont familiers avec les Saintes Écritures le savent. Ce n'est pas un passage qui est très difficile à interpréter, mais c'est un passage qui est profondément troublant. Apocalypse 19, 10. « Puis je vis les cieux, le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il paîtra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Tous ceux qui sont familiers avec la parole de Dieu savent qu'il est question ici du Fils de Dieu, de ce Jésus de Nazareth, qui est entré une première fois à Jérusalem, assis sur un ânon, en sandales, mais qui revient un jour, monté sur une monture de guerre, dans une gloire et une majesté qui fera trembler tous les hommes sur la terre. Voyez-vous, pour répondre intelligemment à la question qui est Jésus-Christ pour vous, il faut savoir que Jésus-Christ est venu et qu'il reviendra. Il faut savoir que la première fois il est entré à Jérusalem assis sur un ânon, il venait alors se livrer entre les mains des hommes. Il venait alors se préparer et s'offrir pour être torturé et crucifié, afin que les hommes le fassent mourir. Mais ce Jésus de Nazareth qui, dans quelques jours, va se livrer lui-même volontairement, s'enfuir aux hommes pour être torturé puis crucifié, ce Jésus va ressusciter le troisième jour. Il est ressuscité puis est remonté au ciel et il reviendra bientôt. Il reviendra bientôt, non pas assis sur un ânon cette fois, mais monté sur un cheval, une monture de guerre dans toute sa gloire, accompagné de ses anges. Si la première fois, lorsqu'on l'a arrêté, il a refusé d'en appeler à son père pour faire venir des hordes et des cohortes d'anges, la seconde fois, il sera accompagné par ses anges. Si la première fois, il est venu avec douceur et humilité, pour nous offrir un message de paix, il viendra la seconde fois dans sa majesté et dans sa gloire, accompagné des armées célestes. Et tout homme plieront les genoux devant lui, avec larmes ou avec joie. La première fois, il est venu offrant la paix. La seconde fois, il viendra pour juger les hommes. Voilà Jésus-Christ. Ainsi, pour répondre à la question qui est Jésus-Christ, il ne suffit pas d'être attendri ou intrigué par cet homme qui est venu voilà 2000 ans en sandales, assis sur un âne. Il faut déjà entrevoir son retour et l'avoir à l'esprit. Pourquoi est-ce que c'est important? Mais la réponse est assez simple. Nous vivons dans la période entre les deux venues de Jésus-Christ. Alors voyez-vous, ce Jésus qui est entré assis sur un anon, doux et paisible, tendait les mains à Jérusalem et il nous tend encore les bras. Nous vivons dans cette période où il est possible encore aujourd'hui de prêter allégeance à ce roi. Personne ici dans cette salle n'est contraint avec un ange devant lui qui lui dit « Mets-toi à genoux devant Jésus-Christ ». Personne. Personne ne vous a forcé à venir ici. Parce que nous sommes encore dans cette période de paix entre les deux venues de Jésus-Christ. Mais un jour, il viendra accompagné de ses anges et vos genoux plieront devant lui. Bon gré, mal gré. Mais aujourd'hui, c'est encore le temps favorable, comme dit l'apôtre Paul. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, il est encore temps de prêter allégeance à Jésus-Christ et de voir ce Jésus qui entre à Jérusalem avec grâce et avec douceur, nous tendant les bras pour que nous venions le reconnaître comme notre roi. Aujourd'hui est encore le jour du salut. Alors, qui est ce Jésus? Revenons au passage de ce matin dans Matthieu 21. Parce que déjà, on apprend beaucoup de choses sur Jésus. Juste dans ce passage, et on va être pour quelques semaines là-dedans. La semaine prochaine, je fais une petite pause avec les baptêmes, mais après ça, on va continuer. Jésus arrive à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Il sait qu'il vient accomplir sa mission. Il sait qu'il s'en vient se livrer entre les mains des hommes. Mais il sait aussi qu'il est roi. Le descendant de David qui vient accomplir les prophéties. Alors, avec une puissance, comme je le disais tout à l'heure, qui est unique à Jésus, il va être le metteur en scène, le chef d'orchestre des prochains jours, avec une puissance qui lui est unique. Et dans ses détails même, nous voyons déjà un peu sa gloire paraître. Jésus met en scène son entrée royale à Jérusalem. Il dirige, j'oserais dire de manière surnaturelle, chacun des détails. Il commence par envoyer deux de ses disciples au prochain village et il leur donne des directives, leur disant qu'ils vont trouver là une ânesse et son petit, un ânon. Et c'est clair dans le passage que Matthieu laisse entendre que Jésus savait ces choses. Il y a une autorité dans la manière que Jésus donne ses directives à ses disciples. Ce n'est pas quelque chose qui a été préalablement établi, où Jésus ne fait pas comme dans d'autres cas, envoyer sur ses disciples pour dire, bien, allez préparer, j'ai besoin d'une chambre, tout ça. Jésus, ce qu'il fait ici, c'est qu'il dit, tout est prêt, allez chercher l'ânesse et l'ânon. Vous n'avez pas à les prendre d'arrangement. Même il leur dit, si vous arrivez et qu'on vous demande, mais qu'en est-il? Pourquoi est-ce que vous voulez partir avec ces bêtes? Vous leur direz que le Seigneur en a besoin et vous laisseront partir. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé, avec cette autorité qui lui est particulière, il le laisse partir. Jésus ne demande pas à ses disciples d'aller prendre des arrangements pour préparer sa venue. Jésus réquisitionne une ânesse et un ânon parce qu'il a l'autorité de le faire, parce qu'il est roi. Et d'une manière unique à Jésus, il sait à l'avance ce qu'ils trouveront là-bas, il sait qu'ils trouveront ce dont il a besoin et il sait qu'il a l'autorité de leur dire « Laissez-les partir, le Seigneur en a besoin. » De quel droit Jésus se comporte-t-il ainsi? De quel droit Jésus peut-il réquisitionner à tout moment comme ça les propriétés d'autrui? De quel droit Jésus peut-il, comme un roi prétentieux, arriver et dire « J'ai besoin de ta terre, tu déménages, copain. J'ai besoin de ton ânesse et de ton ânon. » Mais qui est ce Jésus de Nazareth pour avoir le droit de réquisitionner nos biens ainsi? Si vous êtes avec nous depuis le début de l'Évangile de Matthieu, si vous connaissez un peu l'Évangile, pensez-y un instant. Si Jésus-Christ peut prendre autorité sur le vent et la mer, sur les éléments de la nature, s'il a autorité sur les maladies et la mort, n'a-t-il pas autorité sur nos biens matériels? Au chapitre 8, Jésus est dans la barque, il apaise une tempête et les disciples ont exactement la réaction qu'on a ici. Lorsque Jésus entre à Jérusalem, les disciples s'exclament après avoir vu son autorité sur les éléments de la nature. Les disciples disent « Mais qui est celui-ci à qui obéissent les vents et la mer? » Il est le roi qui a entière autorité sur l'univers. Ne vous fiez pas à l'humilité de sa présentation. Il est le roi. Il a autorité sur les maladies, sur la vie, sur la mort, sur les éléments de la nature, sur mes biens, sur ma vie, sur mon temps, sur mon cœur. Jésus ne viole pas ses droits ni les droits de personne en réquisitionnant ses bêtes. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous prenez l'ânesse et l'ânon, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant, il les laissera aller. Alors, je m'adresse à tous ceux et celles qui, ce matin, lorsque j'ai posé la question, vous avez déjà dit dans votre cœur « Amen, Jésus est le roi ». Est-ce que Jésus peut réquisitionner à tout moment vos biens, votre temps, votre argent, votre cœur, vos pensées? Est-ce que Jésus peut entrer dans votre agenda hebdomadaire à tout moment? Le Seigneur en a besoin et à l'instant, je laisserai aller mon temps pour le Seigneur. Qui est Jésus-Christ pour vous, mes amis? Est-ce qu'il a l'autorité d'un roi? S'il a commandé au vent et à la mer, a-t-il autorité sur votre vie? Peut-il réquisitionner quoi que ce soit dans votre vie dès qu'il en a besoin pour faire avancer son œuvre? Reconnaissez-vous son autorité, cette autorité sur votre vie? Qui est Jésus pour vous? Vous avez déjà répondu à plusieurs reprises cette semaine. Et vous allez répondre encore à plusieurs reprises cette semaine. Qui est Jésus pour vous? Cette semaine, est-ce que le Seigneur vous a demandé quelque chose? Est-ce qu'il est en train de vous montrer ou est-ce qu'il vous a montré qu'il avait besoin de quelque chose dans votre vie? Quelle a été votre réponse? Peut-être qu'il a voulu se servir de vous pour aider quelqu'un, pour écouter quelqu'un, pour aimer quelqu'un, pour pardonner à quelqu'un. Et s'il réclamait votre cœur pour aimer un frère, pour aimer une sœur, pour aimer un collègue de travail, est-ce qu'il a autorité sur votre vie? Est-il votre roi? Ou est-ce qu'il est simplement votre conseiller spirituel? Un rendez-vous avec mon thérapeute quand ça va mal. Roi ou thérapeute? Maintenant, ce qui est plus important encore dans le passage ici ce matin, c'est que Jésus veut montrer qu'il vient accomplir les prophéties. C'est Jésus qui décide d'entrer ici. On le voit, c'est lui qui fait toute la mise en scène. Il décide de monter assis sur un ânon pour accomplir des prophéties de l'Ancien Testament. Matthieu l'a peut-être réalisé plus tard, il l'écrit dans son évangile. Il a compris que Jésus était en train de mettre en scène son entrée pour accomplir les temps et les prophéties. Regardez ce qui est écrit au verset 4, Matthieu 21, verset 4. « Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi, viens à toi plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Je vais vous demander ce matin de revenir un petit peu en arrière dans vos Bibles. Si vous n'êtes pas familier, ne laissez pas aller Matthieu. Revenez quelques livres avant dans le livre de Zacharie. Zacharie, chapitre 9. C'est presque au milieu de la Bible, d'accord? Un tout petit livre prophétique. Zacharie, Malachie, Matthieu. Zacharie 9, verset 9. Je vous fais tourner parce que je veux lire un peu plus large que ce que Matthieu cite ici. Régulièrement, quand les auteurs du Nouveau Testament citent l'Ancien Testament, ils ont à l'esprit l'ensemble, le contexte d'un passage. Et on gagne beaucoup à aller lire l'ensemble du passage pour voir quelle sorte d'idée ils avaient à l'esprit à ce moment-là. Zacharie 9, 9, et je vais aller jusqu'au verset 11. « Sois transporté d'allégresse. » « Fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. » Verset 10. « Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations. » Un temps de paix est proclamé, est annoncé ici. « Et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. » Ce roi qui est annoncé vient à Jérusalem dans notre passage de Matthieu 21. Il vient auprès des Juifs, premièrement, c'est vrai. Il vient auprès de la fille de Sion, Jérusalem, le peuple d'Israël. Il vient avec humilité monter sur un âne. Et lorsqu'on continue à lire le passage au verset 10, nous voyons qu'il vient non seulement pour Israël, mais annoncer la paix aux nations. Parce que bientôt, on va se retrouver dans Matthieu 28, dans quelques mois. Et on va voir que Jésus va envoyer ses disciples faire des disciples à leur tour de toutes les nations de la terre. Ce Jésus est venu annoncer la paix aux nations de la terre entière. C'est pourquoi il y a des millions d'églises aujourd'hui sur la terre. Ce ne sont plus que les Juifs qui lisent la parole de Dieu, mais les chrétiens la lisent en ayant reconnu ce Messie qui est venu, non seulement pour Israël et la fille de Sion, mais pour les nations de la terre. Et ce roi qui venait annoncer un message de paix, venait annoncer une nouvelle alliance qui serait bientôt scellée par le sang. Scellée par son propre sang. Quelques temps plus tard, Jésus avait conscience qu'il s'en venait accomplir les prophéties. Jésus avait conscience qu'il s'en venait offrir un temps de paix, un message de réconciliation aux hommes. C'est pour ça qu'il entre en paix à Jérusalem. Parce qu'il est encore temps de faire la paix avec Dieu, de se réconcilier avec celui qui un jour viendra pour juger les nations. Parce que ce Jésus est venu annoncer une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, une alliance qu'il scellerait bientôt par son propre sang. Et dans Matthieu 26, 28, Jésus lui-même dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Voyez-vous, Jésus, ce jour-là, entre assis sur un ânon, en sandales, avec faiblesse, avec humilité. Il va se livrer lui-même volontairement entre les mains des hommes et il va être torturé et crucifié. Mais en agissant ainsi, il vient offrir aux hommes de sceller une nouvelle alliance avec Dieu, une alliance de paix et de grâce. Cette alliance serait scellée par son propre sang versé sur cette croix pour le pardon des péchés de tout homme qui croirait dans ce roi, qui accepterait cette nouvelle alliance scellée par son sang. Et c'est ça que Jésus a à l'esprit ce jour-là lorsqu'il entre humblement à Jérusalem. Matthieu l'a découvert plus tard. C'est ce Jésus-là qui s'en vient et qui commence à se dévoiler aux hommes. Voici ce roi qui entre avec douceur à Jérusalem. Il est monté sur un ânon comme un signe de paix parce qu'il vient offrir aux hommes une alliance de paix. Et sur le moment, la foule qui est présente s'emballe. Et commence à honorer ce roi. La foule s'excite devant l'idée que ce qu'ils attendent depuis des siècles maintenant, que les temps sont en train de s'accomplir. Le fils de David, l'héritier du trône de David, entre enfin à Jérusalem. La foule devient complètement folle à ce moment-là. Ils sont exaltés de joie parce qu'ils se disent, est-ce que c'est ça? On a entendu parler de lui, il a fait des miracles partout. C'est incroyable. On dit qu'il a autorité sur la vie, sur la mort. On a dit même qu'il a ressuscité des morts. Il a guéri des lépreux. Il va vers les impurs et les rampurs. Sa réputation le précède maintenant. Ça fait des années qu'il a ce ministère et qu'il se fait connaître. Et la foule est excitée, se disant, est-ce que ce serait enfin le moment? Est-ce que les prophéties sont enfin en train de s'accomplir? Ça fait des siècles qu'on attend ça. Et il est traité comme on traite un roi. Les gens commencent à jeter sur le sol des branches pour lui ouvrir le chemin. Ils cassent des branches des arbres, les jettent par terre pour lui faire un tapis royal pour le laisser entrer. Certains vont même aller jusqu'à enlever leur tunique, enlever leur manteau, le déposer sur le sol pour que le roi puisse passer, entrer sur cette voie royale à Jérusalem. Il y a une excitation dans la foule. On crie « Hosanna dans les lieux très hauts! Hosanna au fils de David! » Et toute la ville de Jérusalem est bouleversée à ce moment-là. Ce jour-là, spontanément, la foule a traité Jésus comme un roi, comme le roi qu'ils attendaient, l'héritier de David. Dans les jours qui vont suivre, nous allons voir qu'il n'y avait aucune profondeur dans cette louange. Cette louange-là était une émotion du moment. Ces gens-là chantaient leur louange à Dieu, célébraient Jésus, mais il n'y avait aucune profondeur dans cette louange. Il n'y avait pas de fondement dans cette foi-là. Il y a quelque chose de profondément pathétique dans cette scène, parce que nous connaissons la suite de l'histoire. On sait ce qui s'en vient. C'est pathétique de voir cette foule s'exciter comme ça parce que dans quelques jours, ils vont crier « Crucifie-le! Crucifie-le! » Wow, quelle louange! Ah, c'est beau! On est high ce matin. Il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas de vraie profondeur. Quelques jours plus tard, ils vont crier « Crucifie-le! » Est-ce que vous n'avez pas l'impression, des fois, que nos semaines se passent comme ça? On s'assemble ici le dimanche matin, puis on écoute la musique, puis on élève nos louanges au Seigneur, puis on vient se recentrer sur la personne de Christ, et là, on veut élever nos cœurs vers lui. Je veux voir Jésus, je veux te toucher, je veux être transformé par ta sainteté, je veux que tu changes mon cœur, Seigneur. Qui est Jésus-Christ pour vous, pour toi? Est-ce que la louange persiste tout au long de la semaine? Ou est-ce que d'une certaine manière, par ta vie, demain matin, tu vas dire « Crucifie-le, je ne veux plus rien savoir de lui. » Je sais que c'est dur ce que je vous dis ce matin. Vous n'avez pas le sentiment des fois que nos louanges ressemblent à ça? Alors que nos louanges le dimanche matin devraient être le sommet d'une semaine d'adoration, une semaine à plier le genou chaque matin devant notre roi et à dire « Aujourd'hui, Jésus, réquisitionne tout ce que tu veux parce que je veux voir ta gloire dans ma vie, Seigneur. Ma vie est à toi. Tu l'as acheté à un grand prix. Tu l'as scellé, tu as scellé cette alliance au prix de ton sang, Jésus. Je suis à toi, Seigneur. Et dimanche, j'irai chanter tes louanges, compter tes bienfaits, les merveilles que tu auras opérées dans ma semaine, Seigneur, dans ma vie, chaque jour cette semaine. Oh, combien notre louange va changer, mes amis. On va avoir une profondeur de ce qui va sortir de nos bouches. Nous ne serons pas comme cette foule folle. Qui est Jésus-Christ pour toi? Est-il ton roi? A-t-il le droit de réquisitionner ce qu'il veut dans ta vie? Est-il ton Seigneur? Quelle sorte de louange apportes-tu à Dieu? Apportes-tu à Jésus? Jésus-Christ est le roi. Il est venu accomplir les temps et les prophéties. Il est venu sceller une alliance de paix entre Dieu et les hommes. Et il est venu sceller cette alliance par son sang. Dans quelques jours, il va se livrer entre les mains des bourreaux. Il sera torturé et crucifié. Son sang sera versé pour le pardon des péchés de tous ceux qui croiront en lui, qui le reconnaîtront pour leur roi. Et Jésus, aujourd'hui, ce jour-là, lorsqu'il est entré, et encore jusqu'à ce jour, vient plein de douceur. Avec grâce, avec patience. Il vient en paix dans ta vie, t'invitant à lui prêter allégeance. Comme on prête allégeance à un roi sur ma vie et sur mon cœur, je t'honorerai et te servirai. ma vie t'appartient, à ton service, mon roi. Jésus vient plein de douceur et il t'invite à lui prêter allégeance. Qui est ce Jésus-Christ pour toi? Est-ce qu'il est ton roi? Tu as répondu à cette question-là plein de fois la semaine dernière. Il est très possible que tu ne sois pas fier des réponses que tu as données chaque jour par ta vie. Voyez-vous, c'est ça que Jésus est. Un roi doux et humble qui vient avec douceur nous offrir la paix. C'est la beauté qu'il y a avec Jésus-Christ. Il vient et il nous offre chaque jour son pardon et sa grâce, nous demandant de lui prêter allégeance. Alors, c'est possible que tu regardes en arrière, tu regardes à ta semaine, tu dis, « Seigneur Jésus, tu n'as pas régné sur ma vie. Il y a plein de choses que j'ai retenues. Lorsque j'ai vu que tu voulais ceci dans ma vie, je l'ai retenu, Seigneur, et j'ai honte de cela. » Mais Jésus vient avec grâce et avec douceur, nous offrant son pardon et sa grâce. Et je peux encore aujourd'hui lui prêter allégeance. Et je peux chaque jour aller auprès de mon Père céleste et dire, « Père, j'ai manqué encore aujourd'hui. J'ai manqué là et là, Seigneur. Et je suis troublé de cela parce que j'ai prêté allégeance à ce roi magnifique qui est mort sur une croix pour moi. Maintenant, je fais appel à mon avocat, Jésus-Christ, afin qu'il plaide ma cause devant toi, Père, parce que demain est un autre jour et je veux le vivre pour Christ. Et je ne laisserai pas passer un autre jour sans me repentir et venir renouveler encore une fois mon allégeance à Jésus-Christ. As-t-il le droit à tous les hommages dans ta vie? Est-ce qu'il y a dans ton cœur cette folie qu'il y avait chez cette foule, mais avec une profondeur digne d'un disciple de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a de l'exaltation dans ton âme quand tu considères ce qu'il a fait pour toi à la croix? Est-ce que tu es prêt à déposer à ses pieds, comme cette foule, tes biens et ta vie? Comme cette foule a déposé son manteau, est-ce que tu es prêt à faire ça pour ton roi? Est-ce que ton roi t'a demandé quelque chose cette semaine? Est-ce qu'il a réquisitionné quelque chose dans ta vie? Est-ce que ton roi a reçu les honneurs qu'il méritait? Il vient plein de douceur. Aujourd'hui est encore un jour favorable. Et qui est Jésus-Christ pour toi? Parce que si ta réponse est « c'est tout autre chose qu'un roi », si ta réponse est « un prophète », un grand sage parmi tant d'autres, Mahomet, Confucius, Jésus, un de ceux-là, et pourquoi pas un charlatan tant qu'à y être. Les fabulations de ses disciples qui ont beurré épais lorsqu'ils ont écrit l'histoire. Voyons donc, il n'a jamais fait ça. Ils nous ont bâti un mythe. Si c'est ça ta réponse, il faut que tu saches qu'il y a des millions de chrétiens sur la terre qui attendent impatiemment le retour de ce Jésus. Et il faut que tu saches que nous ne l'attendons pas monter sur un ânon à sa seconde venue, mais monter sur une monture de guerre, dans sa gloire et dans toute sa majesté. Et par la grâce de Dieu, je serai des élus qui chanteront ses louanges. Aujourd'hui, c'est encore le temps favorable pour toi pour lui prêter allégeance. Parce que lorsqu'il reviendra, il ne sera pas en gougoune, mon ami. Mais il va être accompagné d'une cohorte d'anges et tes genoux fléchiront devant lui. Bon gré, mal gré, mieux vaut, je te l'assure, venir prêter allégeance à Jésus-Christ maintenant et le recevoir dans toute sa douceur. Parce que c'est un bon roi, un bon maître à servir. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je suis confus devant ta douceur, devant ta grâce et ta patience, Seigneur. Et lorsque je te regarde si petit, si humain, Seigneur, où étaient les anges de chaque côté? Ils auraient pu être là à côté de toi, Seigneur, et la foule se serait couchée par terre. Tes ennemis auraient fui en courant devant toi. Mais au contraire, tu es monté rempli de douceur, Seigneur, à Jérusalem. Comme tu es beau, Seigneur. Comme tu es doux, Seigneur. Je te bénis, Seigneur Jésus, de ce que tu es entré dans ma vie avec toute cette douceur, apportant la paix et la guérison, la réconciliation avec mon Dieu, la liberté dans ma vie, Seigneur. Et encore à ce jour, ma vie si souvent ne te rend pas hommage. Mes louanges sont souvent pauvres, sans profondeur, comme cette foule complètement folle, Seigneur. Si souvent, Seigneur, je serais incapable de chanter si les musiciens arrêtaient de jouer. Parce qu'il n'y a rien d'autre que ces notes pour me transporter, Seigneur. Oh, pardonne-moi, Jésus. La simple pensée de ton sacrifice pour mes péchés, Seigneur, devrait faire naître en moi tant de louanges, tant de grâces. Le simple fait que je puisse t'adresser la parole, mon Père, et savoir que tes regards me sont favorables, qu'il n'y a plus de colère réservée pour moi, Seigneur, mais seulement ton amour et ta grâce, ta patience et ta douceur. Seigneur Jésus, ça devrait me conduire à te louer, à te bénir. Seigneur, je te prie pour cette salle, cette foule, cette assistance. Ma prière, Seigneur, c'est que chacun d'entre nous repartions d'ici ayant prêté allégeance au roi Jésus. Le genou courbé devant toi, Seigneur, prêt à ce que tu prennes entière autorité sur nos vies. Te déclarant, Seigneur, que tu as droit sur tout en moi, dans ma vie, dans mon cœur, dans ma famille, dans mon temps. Tout est à toi, Seigneur. Et nous chanterons tes louanges et nous annoncerons ta gloire, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui est encore le temps de se réconcilier avec Dieu, parce que le roi vient en paix. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen. On va chanter les louanges de Dieu ensemble. Levons-nous, s'il vous plaît.